L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Georges Maréchal arpente les couloirs du palais de Versailles d'un pas pressé. Cette maison qui abrite le cœur du monde depuis quelques semaines déjà semble s'éteindre. Les courtisans d'ordinaire s'y locassent, riant à gorge déployée des derniers ragots du tout Paris, se font discrets. Le palpitant du plus beau château du monde est en souffrance. Alors les ricanements se sont tus et ont laissé place aux murmures et aux supputations. Le roi va-t-il mourir ? C'est la question qui est sur toutes les lèvres, dans tous les esprits. Il paraît immortel, ce Louis XIV qui enterre année après année tous les membres de sa famille. Il a accompagné au tombeau la totalité de ses enfants, mais aussi de ses petits-enfants, solides comme un roc. La montagne d'or, pourtant aujourd'hui, s'effrite. Et, telle une étoile filante qui aurait ébloui même les astres, il semble pâlir. Oh, quoi de plus normal, après tout, que le souverain soit fatigué. Il a à son actif 76 années de vie, dont 72 passées sur le trône du plus puissant pays du monde. Bon, c'est qu'une sciatique. Voilà ce que pense son premier chirurgien qui jette un regard sur les jardins et les bassins inondés de lumière. Certaines des dames de la cour y batifolent sous leurs perruques. Mais les éclats de voix sont bien feutrés. Dans le couloir soumis à la plus torride chaleur, plus aucune âme ne semble vivre. Assiste-t-on à la fin d'une époque ? Est-ce cela la torpeur de la fin des temps ? Georges Maréchal ne le croit pas. Il ne veut pas être déçu. Nous sommes le samedi 24 août 1715. Départ résonne vers les appartements du roi. Il est 10h30 et c'est leur hache de mon histoire. Louis XIV est alité. Dans ses grands appartements, les rideaux sont tirés et laissent à peine passer le soleil qui brille dehors. Les visages de Jean et François-Antoine, deux frères qui se partagent la fonction de valet de Sa Majesté, sont inquiets. Le premier chirurgien, lui, en a vu d'autres. Il est certain de son diagnostic, persuadé que la mauvaise santé du roi n'est qu'une affaire de nerfs, de muscles qui vieillissent inexorablement. C'est le triste lot de l'existence, après tout. La longévité du monarque est exceptionnelle. Georges Maréchal se fait annoncer et salue le roi qui, dans un regard fiévreux, l'attendait avec impatience. Quelque chose cloche. Tout le monde pressent que le vieillissement n'est pas la cause du mal qui règne ici. Tous, sauf le premier chirurgien qui vient ce matin, comme tous les autres depuis la première quinzaine du mois d'août, administrer médecine au roi Soleil. Mais aujourd'hui, il trouve que le visage du souverain a quelque peu changé. Comment ? Pourquoi ? Il ne saurait le dire, mais cette pâleur et surtout cette fièvre qui s'installe. Pour autant, le médecin ne doit rien laisser transparaître avant d'avoir mené un examen complet sur la personne du roi. N'oublions pas que c'est le descendant de Dieu sur terre qui l'ausculte. C'est aussi le sommet de la pyramide de France. C'est loin d'être anodin. Comme à son habitude, sans jamais soutenir le regard de son illustre interlocuteur, Maréchal lui demande comment il se sent. Mal, se contente de répondre le roi dans un soupir. La fièvre a pris son envol. Le médecin ne peut que le constater. Quelque chose cloche, assurément. Depuis plus de 10 ans, Maréchal est dans l'ombre du souverain lorsqu'il s'agit de le maintenir dans un bon état de santé. Et Dieu sait que la tâche, depuis que Louis est monté sur le trône, fut difficile. Ses prédécesseurs ont eu à faire face à de très nombreuses péripéties, depuis la fistule anale passée à la postérité, au trou dans le palais qui handicape le monarque depuis des années. Mais ce premier chirurgien a la lourde tâche d'accompagner Louis vers la fin de sa vie. Et de fait, un lien indéfectible, profond, d'estime et de sentiments presque amicaux, s'est noué entre les deux hommes. Le roi au fond de sa couche tousse. Une toux sèche qui claque dans la pièce. Il n'y a pas un bruit, ni au dehors ni au dedans. Rien que Louis XIV et son médecin. Eau-de-vie Canfray, lait d'ânesse. Il sort de sa sacoche de quoi préparer des bains pour soigner les taches noires apparues sur la jambe royale. Georges Maréchal, avant de commencer, regarde à nouveau ce qui se cache sous les pansements. Et pendant que Louis XIV s'enquiert auprès de lui de ce que la cour raconte à propos de son absence prolongée, le chirurgien, lui, délie les linges. Chaque couche qu'il enlève cause au roi une souffrance telle qu'il doit s'arrêter de parler. Et puis, avant même l'image, l'odeur. Celle de la chair pourrie. Ah, une sciatique ? Non, non, il n'en est rien. Maréchal, devant l'ampleur des plaies, ne peut contenir un haut-le-cœur. Le monarque, lui, n'a rien vu. Mais son premier chirurgien n'a pas d'autre choix que de lui dire la vérité. De sciatique, il n'y a jamais eu. C'est bien la gangrène, sournoise, dévorante, qui s'est installée dans sa jambe. Et il est déjà trop tard. Un sphacel, voilà ce qui ronge les chairs royales. Un caillot a certainement bouché une grosse artère et voilà que le mal s'est installé et a pu prospérer sans que personne ne tente de l'enrayer depuis des semaines. En fait, tout est fini. C'est trop tard. Le médecin, tremblant en refaisant les pansements aussi délicatement que possible, va devoir annoncer au malade qu'il est mourant et que rien, absolument rien, ne peut plus être tenté pour le sauver. Pas cette fois. Dans un murmure, et alors que le souverain évoque les prochains aménagements des jardins, Maréchal réclame son attention et, dans un souffle, lui annonce la terrible nouvelle. Au fond de son lit, le soleil se redresse et cette fois plante ses deux grands yeux gris dans ceux de son chirurgien. « Je veux qu'on m'ampute, sire. Ce ne serait en rien raisonnable. » Ni l'âge de votre majesté, ni l'état actuel de sa jambe ne présagent de la réussite d'un tel acte de chirurgie. Le sursaut d'espérance royale retombe donc aussitôt. Louis XIV, cloué dans ses draps depuis déjà plusieurs jours, n'est pas dupe. Mais il se doutait que cette fièvre et cette douleur insupportable à la jambe n'étaient certainement pas dues à un simple mal de dos. Mais de là à s'imaginer au bord du précipice, sans même une corde à laquelle se rattraper. C'est pourtant cette exacte sensation et cet horrible état de fait que le roi va devoir accepter. Il cherche encore l'espace d'un instant une lueur dans le regard de son premier chirurgien pour s'accrocher à la vie et à l'espoir. Mais rien n'y fait. Louis XIV est un vieil homme, dont chaque instant de vie est depuis toujours un rituel orchestré. Chaque levée du royal fessier est une cérémonie, tout comme l'est aussi le coucher. Très vite, le souverain comprend l'importance de ce qui se déroule, là, dans cette chambre, ce samedi matin. On vient de lui annoncer qu'il va mourir. Oh, peut-être pas demain, non, ni dans 10 jours, mais il finira par être emporté. Comme toutes les autres branches de l'univers, lorsque pousse le poids des vagues. Roi ou pas, à l'heure de mourir, la faucheuse finit toujours par se présenter à notre porte. Il comprend d'autant mieux ce qui se joue ce matin-là que le seul et unique maître du jeu, c'est lui-même. Il lui faut mourir ? Très bien. Allons mourir, donc. Mais pas n'importe comment. Et certainement pas en toute discrétion. Son esprit divague et ses idées s'entremêlent. Et puis, comme toujours, sa géniale capacité d'analyse reprend le dessus et remet les choses en perspective, les unes avec les autres. D'un ton sec, presque cassant, qui rappelle celui de ses jeunes années du règne, le monarque s'adresse à son médecin. « Faites-moi venir le père Letellier !» Dans une révérence, le chirurgien s'exécute, bien content de pouvoir quitter quelques instants cette lumière ardente qui s'éteint pour aller respirer au dehors. Le Tellier, un jésuite, est le confesseur du roi depuis déjà 6 ans. Depuis qu'il s'est rapproché de Madame de Maintenon, le souverain s'est réconcilié avec l'Église. Cela ne peut vouloir dire qu'une chose. Si le confesseur est appelé, c'est que la machine infernale déjà s'est mise en route. En sueur, transpirant comme s'il sortait d'un champ de bataille, Georges Maréchal se presse. Il connaît bien les lieux que fréquente le prélat. Le premier d'entre eux, le salon des dames les plus en vue, bien entendu. Tout n'est qu'affaire de diplomatie et d'influence à Versailles. Mais cette fois l'heure est grave. Les fondations de ce petit monde vivent leur dernier soubresaut. D'un pas rapide, il entre dans la pièce et débusque le prêtre en pleine discussion très rapprochée avec une femme. Mais aujourd'hui, Maréchal se fiche bien des ragots. Le souffle court, aggravé par son manque de conditions physiques, témoignant à la fois de son empressement et de son désarroi, le premier chirurgien attrape l'homme d'église par la manche et lui lâche comme une bombe ces quelques mots. « Vite, l'hôtelier, le roi vous réclame. Il se prépare à mourir. » Notre histoire du jour, elle, commence véritablement quelques semaines plus tôt. Nous sommes toujours à Versailles. C'est le point névralgique de tout un pays depuis déjà des dizaines d'années. Bâtir ce palais pour avoir tous les aristocrates sous la main lui avait permis de museler toute tentative de contestation. Maintenant, alors que l'été 1715 bat son plein, tous sont aux ordres totalement étouffés sous une multitude de rituels et de cérémonies du quotidien. Louis XIV est un souverain malin. Celui qui fut traumatisé enfant par les révoltes nobiliaires de la Fronde a compris très vite comment prendre le pouvoir sur ses courtisans qui ne cessent jamais vraiment de murmurer. Nous sommes donc à la grille principale du château. Le soleil qui inonde les Yvelines se reflète avec viva et fracas sur les pics et les serrures d'or. Notre récit du jour commence au beau milieu d'un après-midi, somme toute, très classique, le 9 août 1715. Le roi s'est absenté, en compagnie de Madame de Maintenon, sa favorite, dont certains, toujours les mêmes, murmurent qu'il se serait marié. Il faut dire que la reine est morte, voilà déjà des années. Ils sont donc tous deux partis en direction de Marly, une résidence royale qu'ils affectionnent, non loin de là. Il fut un temps, Louis y allait fièrement à cheval, mais maintenant, il n'en est plus capable et le carrosse est nécessaire. Le géant qui porte dans sa seule main la destinée de tout un continent s'affaiblit. S'affaiblit doucement, mais sûrement. Tout près de la grille principale, les frères Antoine aussi attendent. L'un est plus grand, l'autre est plus chevelu. Ils sont les valets les plus proches du souverain depuis déjà de nombreuses années. Ils ont appris à l'aimer autant qu'à le servir. Pourtant leur place, toujours en retrait, n'est pas la plus simple. Il faut être capable de répondre aux exigences de Sa Majesté, qui ne se sont pas calmées avec l'âge. C'est chez eux une véritable vocation. Il a fallu aux frangins accepter de rester toujours dans l'ombre pour laisser toute la lumière s'exprimer. Accompagner le mouvement de la main et du cœur sans jamais en réellement donner l'impulsion. François a l'habitude de dire d'ailleurs à son frère Jean que de servir le roi l'a rendu plus humble. Cela ne fait aucun doute. Servir, c'est sacrifier, en quelque sorte. Se sacrifier à l'autre, accepter d'être insignifiant et pourtant déterminant. Cette ambivalence, les deux frères Antoine ont appris à la dompter. Ils savent qu'ils ont surtout une chance extraordinaire, celle de partager cette tâche ensemble. Mais voilà que François est tiré de sa rêverie. Le soleil dans les yeux, il distingue le carrosse qui arrive. Le bruit des fers sur le pavé ne trompe pas. C'est bien l'équipage de Louis XIV qui rentre. Sur le parvis s'avance la plus belle voiture que la France n'ait jamais connue. Toutes les moulures sont dorées à la feuille. Des portes faites du bois le plus précieux. Un travail d'orfèvre remarquable. Et tiré par des chevaux dont seul le souverain d'un pays peut disposer. Ils sont 6. Piaffant ici et là, maintenu par des mains admirables, celles d'un cocher venu des pays de l'Est de l'Europe. Il a la voix claire, Les gestes fermes. Moi, il faut bien ça pour faire filer droit ces six magnifiques bêtes venues du Portugal. Des Lusitaniens, à la robe aussi claire que la lumière du jour. Leurs yeux sont noirs et vifs, leurs crins immaculés, et leurs muscles saillants. Voir rentrer le roi est toujours un spectacle, tant le cocher, pour pénétrer dans la cour du palais, fait preuve d'une dextérité remarquable. L'attelage s'immobilise, comme à la manœuvre, dans un arc de cercle. Chaque cheval a sa place. Celui qui mène l'ensemble, à l'avant-gauche, s'impatiente et fait frotter son sabot contre le sol. Le cocher le reprend d'un ton sec qui résonne dans la cour, comme aurait pu le faire un coup de fouet. Instinctivement, le magnifique animal relève la tête avec fierté, les oreilles pointées en avant. C'est sur ces entrefaits que le roi et Madame de Maintenon descendent avec précaution du carrosse. Les courtisans sont là, attendent le roi soleil pour entrer à sa suite dans l'immense palais qui se dresse devant eux. Immédiatement, à la vue du roi, les frères Antoine se regardent en retrait interloqué. Ils l'ont tout de suite remarqué. Le roi ne va pas bien. C'est un euphémisme que de le dire. Il a du mal à marcher, parvient à peine à lever le bras. Madame de Maintenon est inquiète, cela se voit dans ses yeux. Elle soutient le monarque de son côté gauche. Sous son chapeau de plume et sa perruque, Louis semble avoir du mal à respirer. Il est comme abattu. Voilà le terme que François-Antoine cherche depuis que le roi a descendu les quelques marches de l'attelage. Mais que se passe-t-il? Cet homme n'en est pas un. Il est d'abord le roi de France. Depuis si longtemps que plusieurs générations de sujets l'ont connu sur le trône. Cette figure tutélaire frôle l'immortalité, régnant sur un univers de dorure depuis si longtemps. Comment pourrait-il s'effondrer? Jean, lui, est plus pragmatique. Le roi est vieux, tout simplement. Et les journées à Marly sont toujours éprouvantes. Non, c'est sûr, demain, il ira mieux. C'est un roc, c'est bien connu. Peut-être, mais Jean-Antoine se trompe. Ce 9 août 1715 marque le début de la fin. Alors, que s'est-il passé à Marly pour que Louis XIV en revienne s'y épuiser? En réalité, on ne le sait pas vraiment. Un caillot qui serait venu boucher une artère lors d'une balade un peu trop physique. Voilà qui est bien possible. En 1715, Louis XIV est au crépuscule d'une vie déjà exceptionnellement longue pour l'époque. Il est au bord de son 77e anniversaire. Il vient de fêter sa 72e année de règne. Record absolu encore jamais égalé pour un monarque européen. Seule la reine Élisabeth II aurait pu briguer ce titre si elle n'était pas décédée en septembre 2022. Le roi Soleil est dans le paysage depuis tellement longtemps qu'il a enterré toute sa famille et que ses plus proches descendants ne sont plus que des arrière-petits-enfants. C'est donc un homme profondément seul, dont la fin de règne est secouée par des soubresauts dans tout le pays. Versailles, les guerres sans fin, tout cela a coûté des montagnes et des montagnes d'or, et le monarque a dû se résoudre à lever des impôts en toujours plus grande quantité. Il a demandé aux Français toujours plus d'efforts. Cet héritage que le roi laisse, on le sait, explosera à la face de Louis XVI en 1789. Mais aujourd'hui, à l'été 1715, la Révolution est encore loin. Au lieu de cela, Versailles, théâtre de fêtes et de garden parties les plus prisés du monde, s'éteint petit à petit. Une inquiétude mortifère gagne les salons et les murmures, eux, ne s'arrêtent plus. Le roi ne quitte plus ses appartements, victime de grandes douleurs dans la jambe. Il se dit même qu'il aurait de la fièvre. Les inquiétudes les plus grandes, parfois, poussent à l'irrationalité. Certains des courtisans propagent les rumeurs les plus fausses et bientôt, il est impossible de démêler la réalité des mensonges. Lors de ces premiers jours où sont apparus ces symptômes, le souverain est pourtant resté assez actif, simplement fatigué par une fièvre qui s'installe et par une jambe gauche qui se dérobe. Mais les rites et les cérémonies ont toujours eu lieu. Pas de quoi s'inquiéter donc. Peut-être d'autant que le 11 août, son premier médecin, Guy Cressan-Fagon, visiblement meilleur en courbette qu'en médecine, diagnostique avec certitude une sciatique. Un petit traitement, et ce sera reparti. Oui, mais le souverain se plaint de plus en plus. Les frères Antoine, jamais loin du roi Soleil, voient bien que la lueur est en train de pâlir. Le monarque commence à moins manger, alors qu'il est pourtant très gourmand. Les nuits sont de plus en plus plaintives et la bougie au pied du lit, jamais plus ne s'éteint. Morphée n'est plus au rendez-vous, au contraire d'une douleur lancinante qui s'installe. Contenant son rire carnassier dans les recoins des petits passages secrets du château de Versailles, la faucheuse attend son heure. Et elle ne saurait tarder. Les deux semaines qui suivent ne verront aucune amélioration, au contraire. Les équipes de médecins commencent à s'alarmer après le 15 août. Une sciatique n'a jamais empêché quiconque de manger convenablement. Pourtant, à chaque coucher du roi, tous peuvent constater à quel point Louis a déjà maigri. Rongé par le mal qui s'installe, il ne parvient pas à reprendre le dessus. Celui qui a toujours réussi à maîtriser son navire, même au cœur des plus terribles tempêtes s'attaquant à sa santé de fer, constate que son embarcation prend l'eau sans même pouvoir faire quelque chose. Mais alors, que se passe-t-il? Le 21 août, quatre docteurs de la faculté de médecine de Paris, perruques bien ajustées et collants blancs, sont venus ausculter le patient roi. Des taches noires sont apparues sur sa jambe gauche bandée. On étudie le pansement et la plaie dont je vous passe la description. On prend la température du monarque, on observe l'état général tout en constatant la fièvre et ses équipes venues de la capitale confirment bien qu'il s'agit bien d'une sciatique. À la bonne heure. Bon, après tout, c'est bien connu. Toutes les victimes de sciatique confirmeront avoir la jambe qui pourrit. La médecine de 1715 n'étant pas celle d'aujourd'hui, il faudra attendre 3 jours de plus pour qu'un diagnostic décelant la gangrène soit établi. Mais il est déjà trop tard. Louis XIV va mourir. Le chef d'orchestre qu'il est encaisse la nouvelle tant bien que mal du fond de son lit. Les murmures, à l'extérieur des grands appartements, eux, répètent en boucle que la fin est proche. C'est pas tout à fait vrai. Le roi Soleil va avoir le temps de préparer son grand départ, et vous allez le voir. Il ne va rien laisser au hasard.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, l'heure H se penche sur les dernières semaines du plus grand monarque de l'histoire de France, Louis XIV. Au retour d'une journée champêtre au château de Marly, le roi Soleil, âgé de 76 ans, se trouve soudainement fatigué. Alors que les médecins, durant de nombreux jours, vont croire que le monarque est la victime d'une sciatique, ce n'est que le 24 août 1715 qu'on lui avoue la vérité. C'est une gangrène sénile et il va mourir. Louis ne se laisse pas abattre pour autant. Il compte bien préparer les choses. Sa vie n'a été qu'une succession de rituels et de cérémonies. Sa mort en sera une également. Nous sommes le 26 août 1715 en fin de journée. L'astre solaire dehors n'est pas couché mais frôle la cime des arbres qui sont à l'extérieur du parc. Les rideaux sont tirés. Seuls de légers rayons de lumière parviennent à se frayer un passage dans une chambre éclairée à la bougie depuis des jours. Dans le lit royal, Louis XIV, d'une molle volonté, termine d'avaler un dîner qui ne lui fait pas envie. À sa gauche, Madame de Maintenon ne quitte le chevet de son royal amant qu'à de très rares moments. Les frères Antoine aussi, dissimulés derrière un chandelier, passant inaperçus, sont là. Ils attendent. Le roi leur a laissé des consignes. Maintenant que sa mort religieuse est passée, puisqu'il a reçu l'extrême onction des mains du cardinal de Rohan la veille, il doit penser à son trépas politique et recevoir celui qui va avoir la lourde tâche de lui succéder sur le trône. D'un geste, Louis les appelle pour qu'ils récupèrent la cuillère et l'assiette d'argent, qui n'a été que très peu vidée. L'odeur, aux abords de la couche, est insupportable. De la chair en putréfaction. Voilà ce qui se joue, sous les pansements changés régulièrement. Le roi est en train de se faire dévorer par la gangrène. D'une voix faiblarde, presque éteinte, Louis XIV s'adresse à François-Antoine. Faites-le entrer. Celui qui est attendu pour cette audience des plus particulières ce soir n'est encore qu'un enfant. Il a 5 ans et demi. Séparés par 2 générations, les deux Bourbons vont se parler les yeux dans les yeux. Mais comment placer convenablement une couronne sur la tête d'un marmot qui joue encore au petit soldat? Comment trouver les mots justes pour faire passer ces messages? C'est le sens des questions qui semblent affecter le royal esprit qui se meurt. Les frères Antoine, toujours présents en retrait, accompagnent le petit prince au pied du lit. Ils le font asseoir sur un fauteuil qui se trouve là, puis ils retournent se cacher dans l'ombre. Ce sont des virtuoses, au fond. Ces hommes qui assistent à tous les moments les plus importants de la fin de vie du roi, mais qui aussi font mine de ne pas les remarquer. Dotés d'instruments invisibles, ils adoucissent les derniers gestes et les dernières paroles. Sans même ouvrir la bouche, ils accompagnent, mettent en musique les consignes qu'on a pu leur laisser. Oh, le petit garçon, lui, s'empresse d'écouter cet aïeul à la mort désespérément longue et qui tente, prenant le créateur à partie, de justifier les dépenses faramineuses qu'il a pu faire. Il conseille à ce petit en passe de devenir son successeur de ne pas trop faire construire, de ne pas trop faire la guerre non plus, et surtout de veiller au bon vivre de son peuple, ajoutant doucement qu'il n'a pas réussi à le faire. En somme, fais ce que je dis, mais pas ce que j'ai pu faire. Le petit garçon est ensuite reconduit près de la cour, des larmes au fond des yeux. L'ambiance dans la pièce est lugubre. Le roi peine de plus en plus à respirer convenablement. Madame de Maintenon, discrètement, fait de nouveau son entrée pour s'asseoir aux côtés du roi. Il saisit sa main. Elle remarque, dans un sanglot qu'elle contient, que tout est devenu froid chez le plus puissant souverain du monde. Ce dernier plonge ses yeux dans les siens et tente une surprenante parole. Ce qui me console dans le fait de vous quitter, madame, est l'espérance à l'âge que vous avez que nous nous rejoindrons bientôt. Courroucé devant ce manque de délicatesse, sa favorite se garde bien de prononcer le moindre mot. Profondément atteinte par l'agonie de l'homme qu'elle aime depuis déjà de très nombreuses années, elle ne cesse de prier pour son salut. S'il est de retour avec sincérité dans le sillage de Jésus, c'est grâce à elle qu'il extirpa des griffes de la Montespan. La vie amoureuse du roi Louis XIV pourrait à elle seule faire l'objet d'une pièce de théâtre. C'est souvent ce qu'elle dit, en guise de boutade. Mais rien n'est plus vrai. Louis fut un amoureux de l'amour, et aujourd'hui, heureusement, il ne vit pas ses derniers moments seul. Au contraire, ils sont des centaines à attendre. Certains avec plus de patience que d'autres. Les courtisans, en effet, attendent depuis des jours que le trépas advienne, ce qui tarde à arriver. Le 25 août aura été la journée de la mort religieuse. Le 26, celui des morts curiales et politiques. Toute la cour a défilé devant son lit. Et puis, il a reçu le petit dauphin. La fin de l'histoire semble donc se préciser. Pour autant, la surprise fut de taille lorsque le 29, des bruits insistants circulèrent dans les allées et dans les salons au sujet d'un mieux du roi. « Il s'est réveillé avec moins de fièvre », disent certains de ses plus proches. « Il a même mangé avec appétit. » L'essaim d'abeilles se déplace donc de nouveau et se presse aux portes des grands appartements du roi. Durant quelques heures, certains espèrent même le voir se lever. Mais non. Non, il n'en est rien. En fin de journée, Louis bascule dans une somnolence qui ressemble bien fort à un coma. Les salons donc se vident de nouveau et certains commencent même à râler. Va-t-il enfin se décider à mourir? même parmi les plus proches. Des défections se font sentir. Madame de Maintenon prend la poudre d'escampette vers Saint-Cyr. La loyauté, même chez les plus fidèles, parfois se dérobe. Ainsi est faite la vie. Peut-être a-t-elle pris ombrage du bon mot du roi sur son âge. Qui sait après tout? En tous les cas, elle quitte le soleil sur ce dernier coucher. La journée du 30 août n'est qu'une longue sieste, entamée la veille au soir. Le mieux du souverain n'en était pas un. Tout ceci n'est qu'un sursaut, comme peuvent en être témoins les gens qui ont assisté aux derniers instants d'un proche. C'est le cycle de la vie, immuable, implacable. L'agonie du souverain le prouve. On ne choisit pas son moment. Les derniers jours se profilent. Les souffrances vont en augmentant. Louis XIV, certainement, souhaite que cela s'arrête. Mais alors qu'il a régné en maître sur toute sa vie, de la chose la plus futile à la décision la plus immense, il n'a cette fois plus aucune prise sur rien. Les derniers moments sont des plus terribles pour un homme qui souffre le martyre dans sa chair. Les deux dernières journées sont racontées par Saint-Simon, un chroniqueur du grand siècle. Il écrit ceci. Le samedi 31 août, la nuit et la journée furent détestables. Il n'y eut que de rares et courts instants de connaissance. La gangrène avait gagné le genou et toute la cuisse. Vers 11h du soir, on le trouva si mal qu'on lui dit les prières des agonisants. Il répéta plusieurs fois « Nunc et inora mortis » puis dit « Oh mon Dieu, venez à mon aide, hâtez-vous de me secourir ». Ce furent ses dernières paroles. Toute la nuit fut sans connaissance et une longue agonie. Le moment de la fin est venu. Louis XIV s'apprête à faire le grand saut. L'ultime éclipse du roi soleil arrive. Les valets Antoine, eux, attendent patiemment. Ils font partie du dernier cercle d'intimes qui l'entoure avec fidélité et dignité alors qu'il attend la barque du passeur, qui viendra finalement le chercher le 1er septembre 1715.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.
Aujourd'hui, l'heure H se penche sur l'histoire du décès de l'un des hommes les plus puissants au monde, Louis XIV. Une agonie interminable plonge Versailles dans la torpeur. Oh, il a tout organisé, certes, de sa mort religieuse à sa mort politique, mais ce qu'il n'a pas vu venir, en revanche, c'est la lenteur avec laquelle la mort physique va venir le chercher. Entre les premiers symptômes du 9 août et le grand saut qui a lieu le 1er septembre au matin, il s'écoule plus de 3 semaines. Cette disparition est aussi celle d'un régime absolu, le sien, qui ne va pas pouvoir perdurer plus de 75 ans. C'est en cela que le décès de Louis XIV est l'un des événements les plus importants au monde. Louis XIV expire donc le 1er septembre 1715 à 8h15 du matin, entouré de nombreux courtisans venus lui rendre hommage. Le lendemain de ces tristes événements, une autopsie est réalisée. Les frères Antoine, qui y assistent, raconte ceci. Le 2 septembre 1715, le corps du roi Louis XIV, surnommé Le Grand, pour ses rares vertus, a été ouvert par M. Maréchal, premier chirurgien du roi, en présence des médecins et chirurgiens du roi et autres personnes nommées par M. le duc d'Orléans pour y être présent. On a trouvé l'extérieur du côté gauche gangréné depuis l'extrémité du pied jusqu'au haut de la tête, l'épiderme se levant de tous côtés. Moins le droit que le gauche, le ventre extrêmement tendu, très bouffi, les intestins bien altérés avec inflammation, surtout ceux du côté gauche, le gros intestin d'une dilatation extraordinaire. Les reins étant assez ordinaires et naturels, mais le gauche s'était trouvé une petite pierre comme le roi en avait jeté plusieurs fois sans douleur, étant en santé. Le foie, la rate et l'estomac étaient à l'état naturel, tant dans les extrémités que l'intérieur. les poumons ainsi que la poitrine dans l'état naturel, le cœur très beau d'une grosseur ordinaire. L'extrémité des vaisseaux devenue oiseuse, tous les muscles de la gorge tous gangrénés à l'ouverture de la tête, la dure mère s'est trouvée adhérente au crâne et la pimère était tachée de 3 taches noires le long de la faux. Le cerveau, très bien dans son état naturel, tant au-dedans qu'au dehors, on s'est aperçu que l'intérieur de la cuisse gauche, où le mal du roi a commencé, était tout gangréné dans toutes les parties, tout le sang, dans tous les vaisseaux, apparu d'une dissolution totale et en très petite quantité. Ouais. Autant dire que le souverain termina bien mal son existence dans des souffrances qu'il paraît difficile de pouvoir imaginer. Sa mort actée, il faut maintenant organiser pour lui des obsèques dignes des plus grands monarques du pays. Les livres d'histoire racontent avec viva celle de François Ier ou Henri IV. Mais la différence ici est surprenante. Le roi Soleil, pourtant omnipotent durant plus de 70 ans, n'aura pas un enterrement digne de ceux de ses aïeuls. Pourquoi, me direz-vous ? Car il est particulièrement impopulaire dans tout le royaume. Sa dépouille quitte le palais à la tombée de la nuit, le 9 septembre, pour arriver à la basilique Saint-Denis aux aurores. On espère ainsi éviter les manifestations de colère. C'est peine perdue. Peine perdue parce que tout le trajet, des torches et des cris accompagnent la dépouille du souverain. Personne n'avait jamais encore vu cela. L'intention est tellement palpable qu'à l'ouverture de son oraison funèbre, l'évêque Jean-Baptiste Massillon, qui prend la parole, aura ces quelques mots. « Dieu seul est grand, mes frères. » Ambiance. Quoi qu'il en soit, la mort de Louis XIV est sans conteste un bouleversement politique majeur pour tout le pays. Inutile de préciser qu'un règne aussi long aura façonné la nation et, malgré la colère sous-jacente, Louis XIV aura marqué l'histoire du monde, avec Versailles, bien entendu, comme principale vitrine. Plus encore, ce que j'ai voulu montrer aujourd'hui, c'est le contraste net et tranché entre la magnificence d'un règne et d'une vie sur laquelle tout ou presque a déjà été écrit et la fin de vie souvent terrible, souvent implacable. On a beau être le plus puissant souverain du monde, le plus riche des marchands, le plus beau des hommes, lorsque la maladie et la mort viennent frapper à la porte, il n'est pas possible de les soudoyer. Ce qui frappe, dans le cas du roi Soleil, c'est que ses souffrances ont été gérées et vécues comme auraient pu l'être celles de n'importe lequel de ses sujets. C'est également le cas lorsqu'on regarde de près sa mort religieuse. Le grand roi a été le sujet de rites les plus classiques, là aussi, comme n'importe lequel des sujets du royaume. Tout comme le plus petit des laboureurs de la Creuse, Louis le Grand est mort en chrétien. N'est-ce pas cocasse, lorsqu'on connaît la soif de supériorité et de pouvoir de ce souverain si particulier? Je vous propose aujourd'hui de nous quitter avec les paroles de François et Jean-Antoine, ces deux valets dont nous avons longuement parlé. Personnages de l'ombre, ils vont, à la suite de la mort du souverain, aller chercher leur part de lumière et publier un ouvrage sur les dernières semaines de Louis le Grand. Je vous laisse avec leur compte-rendu du matin de l'agonie de Louis XIV. Vous verrez qu'ils auront été jusqu'au bout, tout près de l'épicentre de leur monde. Le roi passa cependant encore toute la nuit du 1er septembre, 23e et dernier jour de sa maladie, de sa vie et de son règne. Il la passa cette nuit fatale en poussant de longs et profonds soupirs qui faisaient connaître qu'il souffrait beaucoup. Sur les 5 heures du matin, il perdit absolument toute apparence de vie, excepté la respiration. Son visage pâle et tourné à la mort, ses yeux se fermèrent. Il ne donna plus aucune marque de sentiment. Descendant de Dieu sur terre, mais égal à ses sujets dans la maladie, dans les épreuves et dans la mort, tel est le destin des souverains de France et d'ailleurs. Et si ces derniers l'avaient compris, la prise de la Bastille aurait-elle eu lieu? Eh bien, je vous laisse le soin de réfléchir à cette question. Voilà pour ce récit que j'ai eu le plaisir de partager avec vous grâce à la plume de Valjean.
L'heure H. Jean-Louis Lahaye.